Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0 dans l'émission L'art c'est pas du luxe avec Christian Lux. Donc aujourd'hui je reçois un écrivain poète et je vais commencer justement par lire un de ses poèmes qui le présente un petit peu. Ce poème s'intitule « La deuxième personne du singulier ». Toi qu'on fit débarquer sur terre sans te demander ton avis, sous le nom de Christian Claude Louis Cotet Aymard, tu t'aimes un peu, beaucoup, à la folie, mais pas passionnément. Tu t'adresses à toi, la deuxième personne du singulier, pour te sentir moins seul lorsque tu es obligé d'emmener ton ombre dans des lieux absurdes. Tu ne te remets pas du déclassement économique qui frappa bien avant ta naissance tes familles paternelles et maternelles et te déposséda d'un agréable destin d'oisif petit bourgeois formé aux seules bonnes manières. Tu es un occidental de culture catholique, baptisé, agnostique, non militant, ordinaire d'une intelligence moyenne à tendance médiocre. Tu n'es pas et ne souhaites pas être un héros parce que la vie est courte et incompréhensible. Tu penses qu'une vie qui ne serait faite que d'obligations et de devoirs ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Tu n'as rien à faire d'un chef-d'œuvre qui ne t'apporte aucun plaisir. Tu n'as pas un rapport solennel à l'écriture. L'aventure du poème n'a rien à voir avec une sortie entre copains d'ailleurs. Tu ne pratiques pas la sortie entre copains. Tu t'étonnes toujours quand quelque chose fonctionne. Être convaincu n'est pas dans ta nature. Tu l'as compris, rien n'est sérieux, tout est tragique. Tu as peur du loup. Le loup peut avoir peur de toi car tu as peur de lui. Il ne faut pas te déranger quand tu manges, il ne faut pas te manger quand tu déranges. Tu as un petit côté fleur bleue quand tu as bien mangé. Tu aimes avoir les oreilles froides, tu détestes lasser tes chaussures. Tu n'es pas sûr d'être vivant avant 10 heures. Tu t'intéresseras à la politique le jour où plus personne ne couchera dehors sans en avoir envie. Tu aimes être propre et sentir bon, même si ton âme est grise. Tu ne comprends pas grand-chose aux femmes, mais elles t'inspirent plus confiance que les hommes parce qu'elles t'ont fait. Tu aimes rire, boire, manger, fumer des cigares, aller au concert, à l'opéra, être amoureux, parce que la tristesse durera toujours. Christian Cotet-Aymard, bonjour.
Bonjour Christian, c'est bien de se retrouver entre deux Christians pour dialoguer. Et puis je suis assez content que tu aies commencé par la citation de cet autoportrait. Un autoportrait qui peut être considéré comme narcissique, mais qui n'est pas tant que ça, puisque ce serait plutôt un autoportrait à charge.
Oui. Et bien, ce narcissisme dont on critique beaucoup les écrivains, je vais mettre un bémol à ça, hein, parce que qui n'est pas narcissique déjà, et puis dès qu'on écrit, on parle de soi, mais on s'adresse aussi à l'autre.
Voilà, alors c'est justement ce que ce livre tout entier exprime. C'est un livre dont le matériau est pauvre. Pauvre dans le sens simple, hein. C'est un livre de l'expérience individuelle. C'est pas le livre d'un poète, justement. Je pense que chacun peut retrouver des expériences tout à fait personnelles à la lecture des différents textes. C'est aussi pour ça que le matériau est pauvre. Non pas pour que ce soit facile à lire, parce que c'est pas facile à lire autant que ça, hein. Y a pas de ponctuation, y a des associations d'idées. Mais le but du livre, c'est de partager des expériences qui peuvent être partagées, bien sûr, par tout le monde. Donc il n'y a pas un poète qui est dans sa tour d'ivoire et qui regarde le monde de haut. C'est de l'expérience directe avec la nature, avec la ville, avec les personnes, avec le souvenir aussi. Hein, donc c'est tout mélangé. Et c'est donc dans une écriture un petit peu relâchée, mais volontairement relâchée, à la limite, à l'exemple de cet autoportrait que tu viens de lire très très bien d'ailleurs.
Oui. Je vais lire un autre texte qui va être en écho ou en résonance. Il s'intitule « Peser un peu ». Vous êtes le premier ce matin, te dit le nouveau curé. Une petite quarantaine, peut-être moins, en te donnant du feu. D'habitude, tu trouves déjà une veilleuse rouge ou bleue pour allumer la tienne. Mais en ce très sombre matin de la belle saison, tu es le premier. On finit un jour ou l'autre par être le premier. Qu'est-ce que ça peut faire ? Il a entendu la chute de ta pièce dans le tronc à cause de l'écho dans les chapelles. Peut-être, croit-il, que tu as la foi pour venir de si bon matin signifier aux ténèbres qu'elles n'ont pas encore gagné et qu'après toi viendra quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que s'éteigne sous la dernière voûte, la dernière bougie. Dans cette abbatiale, dix petites flammes taquinent l'ombre depuis le XIIe siècle. Alors, si le curé entrait dans la grotte primitive de tes pensées, il trébucherait là-dessus. Pour toi, rien n'était le 24 novembre 1958, puisque tu es né le 24 novembre 1959. Et un certain 24 novembre, encore non écrit, rien ne sera de plus que le 24 novembre 1958. Avec ta veilleuse à 50 centimes, tu as l'air d'un ver luisant qui se signale aux confins de l'univers. Dehors, sur l'esplanade du grand lac glaciaire, le forain laisse trembloter l'enseigne de son camion, frites, boissons, nougats, berlingots. Commande-lui un café et un hot-dog, histoire de peser un peu sur la terre.
Alors, peser un peu sur la terre, c'est ce que nous essayons tous de faire, donc à notre façon. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, hein, aller dans les églises, même si on n'a pas la foi forcément, allumer des cierges ou des veilleuses, manger des hot-dogs. Il y a tout un tas de possibilités qui nous sont offertes pour peser un petit peu. Mais en réalité, nous sommes très très légers, hein, malgré que nous puissions avaler des nourritures très lourdes comme les hot-dogs avec de la mayonnaise. Malheureusement, nous restons légers et présents dans un monde qui conteste sans arrêt notre présence.
Oui. Donc, pour marquer un temps de respiration en dehors de nos deux voix, nous allons écouter quelle musique ?
Alors, je crois qu'on avait commencé par de la musique de Benjamin Britten. Hein, il s'agit de la Sinfonietta, d'une partie de la Sinfonietta. Thank you.
Oui, donc Christian Cottemard, votre livre qu'on n'a pas présenté, vous allez le faire là, actuellement, donc
ben, il s'agit d'un recueil, bien sûr. Hein. Quand on dit recueil, c'est au sens propre du terme, c'est qu'il y a plusieurs sections. Il est composé de quatre sections, dont une donne le titre général, Poème du bois de chauffage. Alors, ces quatre sections, en fait, ce sont des textes qui ont une grande homogénéité. C'est pas une collection artificielle de quatre recueils différents. C'est une production qui se situe dans le temps entre 2006 et 2017, même 2018. Et donc c'est très homogène comme écriture, bien que chaque section ait sa spécificité. Alors les poèmes du bois de chauffage, c'est les plus récents, c'est les plus simples et en même temps ceux qui ont été pour moi les plus compliqués à écrire, bien évidemment.
Oui, hein, puisque tout à l'heure, tu nous disais que c'était une écriture qui a à voir avec la pauvreté, mais il faut bien s'entendre, la pauvreté au sens d'une très grande richesse, mais d'une simplicité et le mot le plus juste possible, sans tomber dans l'intellectualisme ou sans tomber dans une poésie, une littérature qu'on n'arrive pas bien à saisir.
Alors, je dois dire que j'ai été un peu masochiste, certainement, en employant le mot poème dans la couverture, sur la couverture. Parce que quand on lit poème sur une couverture ou poésie, on a tendance à partir en courant. D'autant que ces textes sont plutôt des récits. Ce ne sont pas vraiment des poèmes au sens classique du terme, bien que j'ai employé une forme qui rappelle le verset. Oui. Donc c'est un verset qui n'a rien de satanique, évidemment. Mais c'est une forme de verset qui est une forme un peu solennelle quand on regarde l'histoire du verset. Les thèmes traités ne sont pas du tout solennels. Donc j'ai aimé utiliser cette technique, hein, prendre une forme solennelle pour parler de choses qui sont très triviales. Hein. Mais trivial dans le sens rustique. Hein. Il y a une rusticité dans les thèmes abordés. Une rusticité qui, je pense, nous caractérise nos expériences quotidiennes. Alors, nos expériences quotidiennes, c'est des expériences toutes bêtes, hein, avec le vent, quand on est dans la nature, en ville aussi, hein, le vent souffle aussi dans les villes. Donc c'est vraiment tout le thème du recueil, des quatre sections du recueil, c'est vraiment des choses que chacun d'entre nous peut ressentir à certains moments de sa vie. Alors effectivement, parfois ce sont des choses auxquelles on ne prête pas attention, qui nous paraissent normales, vulgaires, sans intérêt, mais quand on regarde bien, le sel de la vie, il est ici. Tout le reste est assez artificiel finalement. Donc c'est un livre charnel, c'est un livre très charnel, et pour que ce thème de la rusticité de la vie, de l'étrangeté de la vie aussi, hein, qui est très présent dans ce livre, pour que ce thème ressorte, il fallait une écriture adaptée, et c'est ça qui a été compliqué.
Alors bon, le thème du verset, bien évidemment, les traductions de Chouraki ou de Méchonik, pour ne pas les nommer, de la Bible, témoignent de cette écriture très très simple et qui frappe, hein, et qui a été malheureusement complètement ou en partie dévoyée par une littérature plus, comment dirais-je, universitaire, plus policée. Et là aussi... nous parlions des versets, mais j'ai envie aussi de revenir vers cette littérature très de la vie, je dirais, matérielle aussi, sans vouloir profaner Marguerite Duras, mais qu'on retrouve chez beaucoup de poètes américains.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai pris quand même une certaine distance vis-à-vis des poètes américains, bien qu'ils m'ont appris, hein, ils m'ont beaucoup appris à écrire. Ceci dit, c'était des gens qui étaient quand même qui vivaient à une époque désormais lointaine. Donc, il y a effectivement maintenant dans la poésie française, hein, oui. Il y a une grande influence de la poésie américaine des années 50. Oui. Alors, il faut faire attention avec
Kerouac,
ça.
Kerouac, Ginsberg.
Oui, Kerouac, Ginsberg.
Cassady.
Moi, j'aime beaucoup Ginsberg, notamment. Oui. Et Kerouac aussi, bien évidemment. Puis toute la bande, hein, il y en a d'autres moins communs.
Exemple,
il y a Ferlinghetti aussi, qui était leur libraire.
Ah, bah, bien sûr, oui, tout à fait.
Et alors, j'aime beaucoup cette littérature-là, j'aime beaucoup cette poésie, mais elle est datée. Alors, datée, c'est pas dans le sens péjoratif que je le dis, mais il faut faire attention quand on s'inspire de cette. Enfin, quand on est inspiré par ce courant de la littérature, il faut faire attention de ne pas tomber dans la parodie. Ah, et je connais des auteurs qui tombent un petit peu dans la parodie en utilisant le même ton, c'est-à-dire en intégrant dans leur texte des expressions un peu qui paraissaient évidemment très très modernes à l'époque mais qui maintenant sont appartiennent au passé. Donc j'ai quand même voulu éviter cet écueil, ce qui fait que j'aime beaucoup cette littérature, mais je ne me considère pas comme l'héritier direct de cette littérature.
Oui, non, mais je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir que Christian Cotta est mort, même s'il a été voir du côté des auteurs américains et de tant d'autres poètes de différentes contrées, Christian Cotta est mort, a une voix particulière qui s'entend, qui est singulière, et il suffit de lire un poème pour ressentir cette authenticité. D'ailleurs, Christian, tu vas nous lire un poème, et comme ça, l'auditeur et l'auditrice pourront en avoir une idée. Voilà. Donc,
eh bien, on va commencer par un de ces fameux poèmes du bois de chauffage, qui constitue la première partie du livre. On va rester un petit peu dans l'étrangeté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a écouté du Britten à l'instant, du Benjamin Britten, de la Sinfonietta, qui est une œuvre assez étrange dans son atmosphère. Donc je vais lire un texte qui est un peu en résonance avec ça, en résonance avec l'étrangeté de notre présence au monde. Parce que finalement c'est très très bizarre d'être en vie comme ça sur Terre. Si on y réfléchit bien, c'est même la chose la plus bizarre qui puisse exister.
Oui.
Alors de temps en temps on y pense quand on est dans la nature, dans le jardin par exemple. Donc, et dans le jardin, qu'est-ce qu'on trouve parfois? Une grosse pierre. Alors, la grosse pierre. Parfois, il me plairait d'inverser les rôles, d'être la grosse pierre que j'ai mis une demi-heure à sortir toute poisseuse de cette bouillie qui donne le joli potager. Sous la lune, elle brille maintenant, toute blanche, lavée par la pluie. Quelle belle pierre, disent les visiteurs, bien qu'elle n'y soit pour rien. Alors je m'assois sur elle, après avoir rempli ma brouette de bois sec, et je pense au poème que je pourrais bricoler avec ce que j'ai trouvé par terre, dans le paysage.
Oui, et un autre texte encore, pour donner une idée de cette voix singulière et très sensible de Christian Cotta-Aymard. Il va nous lire donc.
Alors là, on est dans la deuxième section du livre, qui s'appelle « La vie au bord ». Parce que dans cette étrangeté, cette inquiétante étrangeté parfois, qui est un des thèmes centraux du livre, il y a une section donc, qui est un petit peu moins campagnarde, avec des univers un peu plus urbains. Et donc, dans l'univers urbain, on trouve un personnage assez récurrent, qui s'appelle la jeune mère de famille occidentale et qui parfois est en proie au spleen à la fenêtre de son bureau. Elle voudrait que son mari sportif l'accompagne au théâtre et à l'opéra, que son amant intello l'accompagne au sport, que son jeune amant s'habille plus classe et soit plus attentionné, que son vieil amant s'habille plus décontracté et soit moins sentimental, que son amant classique soit un peu rock, que son amant rock soit un peu classique, que son amant qui apporte les fleurs pense aussi au vase, que son amant qui lui offre un vase pense aussi aux fleurs, que son amant physique soit plus cérébral, que son amant cérébral soit plus physique, que son ami soit moins amoureux, que son amant soit plus amical. Elle voudrait un peu d'Orient dans l'Occident et de l'Occident dans l'Orient. Depuis la fenêtre de son bureau de jeune femme cultivée, professionnelle, performante, bonne mère de famille et talentueuse amante, elle voit le fleuve qui charrie des cadavres de princes charmants.
Oui, Donc, l'homme ne correspond pas toujours à l'idéal de la femme, ou la femme peut penser que l'homme en face d'elle, l'amoureux, l'aimé, ne suffit pas vraiment à la combler. Vaste question.
Oui, ben c'est pareil, hein, c'est les rapports hommes-femmes, c'est les rapports hommes-femmes dans le nouveau monde dans lequel nous basculons sont compliqués, et ça fait partie de notre expérience, hein, l'expérience humaine. Donc j'avais bien envie évidemment de traiter ce thème de manière, j'espère, humoristique dans ce livre. Alors il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux.
Non, c'est simplement une indication ou une proposition pour penser l'autre. L'autre qui nous accompagne et l'autre tel qu'on le voit, on le ressent, ou tel qu'on aimerait qu'il soit, et la présence de l'autre.
Sa présence et aussi son mystère, parce que là encore, c'est vraiment le thème du livre, c'est l'étrangeté. Mmh. Et l'étrangeté se niche dans notre expérience quotidienne.
Oui. L'unheimlich, non pas le Freud, l'inquiétante étrangeté, hein. C'est là sans être là, on se reconnaît sans se reconnaître. Mais Christian Conte-Aymar en témoigne aussi quand il face au miroir. Est-ce que c'est lui qu'il voit? Est-ce que c'est son ombre? Ou est-ce que c'est un autre qui le regarde?
Oui, alors là, il y a une référence à Jean Tardieu.
Oui.
C'est d'ailleurs, elle est très bien notée. Hein, c'est une référence, subliminale à Jean Tardieu, qui est pour moi évidemment un poète phare.
Oui. Donc là, il faut préciser que tu as écrit un livre sur un essai sur Jean Tardieu.
Oui. Il y a
on
déjà...
peut le dire à l'éditeur et l'auditrice.
Il y a longtemps, oui. Mais c'est un livre maintenant qui est toujours disponible si on cherche bien du côté de l'éditeur, qui est Labartavel.
Oui.
Mais je recommanderais plutôt aux gens d'aller le consulter dans les bibliothèques, puisqu'il est quand même bien présent dans les bibliothèques municipales, à Bourg. Je sais qu'il y en a des exemplaires dans les bibliothèques, à Oyonnax également. Donc je pense que c'est plus sûr, parce que le commander, c'est un peu compliqué, parce qu'il a été publié il y a très longtemps. Et donc, comme tous les livres maintenant qui sont publiés, une fois qu'ils font partie du fonds, c'est difficile de se les procurer.
Oui, ou alors aller à Cuiserie chez Christophe Goumaz, qui est un libraire qui nous trouve des choses improbables, qui fait des tas de recherches, on peut trouver par des voies un peu poétiques.
Ah oui, tout à fait, hein, mais les libraires peuvent le trouver sans problème. Mmh. C'est, bon, après, s'ils font leur métier de libraire, ils le trouvent, sans problème.
Donc, je vais poursuivre avec un poème. Enfin, le mot poème, bien évidemment, hein, toujours quelque chose de précieux qu'il faut savoir mettre de côté. Moi, quand une personne me dit qu'elle est poète, je suis toujours très prudent, parce que je pense que la poésie, c'est un art de vivre, c'est une façon d'être, de se situer dans le monde et dans le lien à l'autre.
Mais... Alors, un poète ne devrait pas se dire lui-même poète. C'est comme un saint. Oui. Si un saint se définit comme un saint, il commet un péché, d'orgueil.
Il ne l'est plus.
Donc, je pense que c'est aux autres, c'est aux lecteurs de dire si l'auteur d'un livre est un poète, est un écrivain ou non. À la limite, ce n'est pas le problème de l'auteur du livre.
Non.
C'est les autres qui décident de ça.
Oui, la légitimité, elle vient d'autrui et du lien que cet autre peut établir avec ce qu'il lit, mais aussi le retour que ça fait sur sa propre subjectivité, si je puis dire. Donc là, je vais lire un poème que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas donner le titre parce qu'on va le découvrir quand même. Tu arrivais contre le vent. Le chevreuil ne t'a pas senti. Une chevrette avec son faon. Lorsqu'elle t'a vu, il était trop tard. Le faon se risquait trop loin pour qu'elle puisse le récupérer tout de suite et bondir avec lui dans le monde des chevreuils. Tu ne bouges plus, elle te fixe, dresse les oreilles, tu ne bouges plus, elle ne bouge plus. Son réflexe de détaler mélangé avec l'idée de récupérer le faon l'immobilise. Elle te fixe et guette le moindre de tes mouvements, un battement de paupières, une respiration et son faon pas très loin. Mais trop loin d'elle. Elle te jauge, elle s'inquiète, mais ne fuit pas. Elle te fixe toujours. Tu n'as pas bougé d'un cil. Elle cherche à t'impressionner par toute une série de bruits comiques. Elle souffle, chouinte, jappe. Elle veut t'intimider. Tu ne bouges toujours pas. Tu sais très bien faire ça, ne pas bouger pendant longtemps. Et, au-delà d'un certain temps, elle va t'oublier. Car, pour elle, une créature qui ne bouge pas pendant longtemps disparaît tout simplement de la circulation. La chevrette t'a oublié parce que tu ne bouges plus et comme tu es arrivé contre le vent, elle ne te sent pas. Tu n'es plus pour elle. Tu n'es plus pour elle qu'un détail de la forêt. Peut-être cet érable champêtre sous lequel tu ne bouges plus et que pour cette chevrette, tu es devenu. L'érable champêtre n'est pas un arbre qui se donne en spectacle. Il a peu d'ambition, comme toi, si ce n'est celle de vivre et d'éviter les ennuis. Tu te transformais en érable champêtre. Tu aurais bien aimé y arriver plus tôt dans les premières périodes pénibles ou stupides de ta vie. Devant la haute porte fermée de l'école primaire Sainte-Jeanne d'Arc, qui faillit si souvent devenir la grande porte de la fugue, disparut le gamin en retard, à sa place, un érable champêtre. Au-delà du gouffre, du cahier de calcul, où les baignoires débordent, où les trains n'arrivent jamais à l'heure, où s'additionnent les retenues, plus personne, juste un érable champêtre. Au tableau poésie à réciter par cœur, qu'est-ce que le cœur et la poésie ont à voir là-dedans? Hop, un érable champêtre. Dommage qu'il ait fallu attendre 46 ans, mais ça valait le coup quand même, aux vaillantes et ingénieuses petites chevrettes.
Oui, 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 c'est du vécu, puisque bien entendu, quand on habite, comme moi, proche de la nature, on fait des rencontres, et on fait des rencontres avec des animaux, et la rencontre avec le chevreuil, c'est quelque chose d'assez commun. Mais là encore, c'est une rencontre avec un animal sauvage, c'est toujours quelque chose d'étrange, d'émouvant ou parfois d'effrayant. Hein, ça dépend de quel animal il s'agit. En ce qui concerne la chevrette et son fang, ça m'a appris quelque chose, cette rencontre qui s'est reproduite plusieurs fois d'ailleurs. C'est que notre monde est peuplé de créatures qui s'observent sans se comprendre. Et il faut trouver une clé pour entrer dans ce monde-là. Et comme l'enfance est présente dans mon livre, se transformer en quelque chose, c'est toujours attirant et on peut toujours essayer de le faire. Et là, en fait, sans bouger, pour pouvoir maintenir le contact très fugace avec cet animal, il m'est venu justement cette idée. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que tu puisses te transformer en un érable champêtre ou en autre chose qui fasse partie de la forêt, qui puisse rassurer cet animal miraculeux. Parce que c'est toujours miraculeux de rencontrer un animal sauvage, surtout à l'époque où on vit, hein,
bien sûr,
où on est plus dans les villes. Donc cette idée de se transformer en quelque chose me séduisait, mais finalement, en y réfléchissant bien, c'est pas moi qui me suis transformé en érable champêtre, c'est la chevrette qui a fait le boulot, c'est elle qui a fait le travail.
Bien sûr, oui. Et donc, dans cette poésie, j'ai retenu quelque chose qui m'a beaucoup occupé pendant un certain temps, à savoir que les professeurs, maîtresses ou maîtres nous disaient d'apprendre une poésie par cœur. Or, je n'ai jamais eu l'impression de l'apprendre par cœur. Je l'apprenais par injonction, obligation, ou pour faire plaisir à celui qui disait de me l'apprendre. Mais là, le cœur, je ne sais pas s'il y était vraiment. À savoir qu'il faudrait donner la possibilité à l'élève de prendre la poésie, de la caresser, de la toucher, de la faire advenir en soi dans un lien très proche. Et le cœur dont on parle dans Poésie par cœur, c'est parfois du mensonge.
Ah, tout à fait. C'est très difficile. Le rapport de la poésie et de l'institution scolaire, c'est très, très, très compliqué.
Voilà, donc nous allons poursuivre avec un nouveau extrait musical qui est...
Alors là, il s'agira d'un de mes compositeurs fétiches, oui. qui s'appelle Aaron Copland, qui est un oui. compositeur américain,
oui.
hein, qui a vécu, bah, qui est un petit peu un des pères de la musique du XXe siècle, de la musique américaine du XXe siècle.
Avec Leni Bernstein.
Avec son ami, son oui. grand ami, 50 ans d'amitié quand oui. même, hein, avec Leonard Bernstein. Oui. Donc là, on a un extrait de son concerto pour clarinette. Je crois que c'est le mouvement rapide de cette œuvre. Très très moderne et en même temps un petit peu jazzy,
oui, bien sûr.
Le classique et le jazzy, oui. ça m'intéresse beaucoup, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur
oui.
Aaron Copland.
Oui, puisqu'il y a un poème.
Tout à fait. Alors, puisqu'on a passé on vient d'écouter un extrait du concerto pour clarinette d'Aaron Copland, un de mes compositeurs fétiches, et j'ai justement dans le livre, dans les poèmes du bois de chauffage, il y a un texte sur Aaron et Leni, hein, Aaron Copland et Leonard Bernstein, qui sont évidemment deux compositeurs qui font partie de mon Olympe musical. Et j'ai eu envie d'écrire un texte sur eux dans cette série des poèmes du bois de chauffage parce que c'est un texte sur l'amitié. Donc évidemment, il y a beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains qui écrivent sur l'amitié. Et là, j'ai eu envie d'écrire sur l'amitié d'Aaron Copland et de Leonard Bernstein. Et ce texte, je l'ai écrit à partir d'une photo, la photo d'un disque où on voit Aaron Copland et Leni Bernstein réunis. Et c'est une très belle photo qui m'a inspiré ce texte. Aaron et Leni. Ils ont l'air de bonne humeur sur cette photo, les deux géants de la musique américaine du XXe siècle. Quand le photographe Walter H. Scott appuie sur le déclencheur, on ne sait si Lenny parle direction d'orchestre à Aaron ou s'il ôte délicatement un cheveu du revers de la veste d'Aaron. Cela tient souvent à un cheveu, la composition, la direction d'orchestre, l'amitié. On fait le même geste quand on tient un cheveu ou une baguette ou quand on essaye de parler de ce qui échappe aux mots, notamment la musique et l'amitié. Cette photo parle bien. Elle parle bien d'Aaron et Lenny, de leur amitié et de leur génie. Le photographe Walter H. Scott a tout compris de ce chef-d'œuvre d'amitié. Tu as souvent cette image sous les yeux depuis 1991 ou 1992 lorsque tu achetas ce disque avec Aaron et Lenny en photo de couverture. Et depuis, tu veux écrire quelque chose sur cette amitié, sur cette musique qui rayonne d'Aaron et de Lenny, même si tu sais que c'est impossible, car aucun mot ne peut exprimer directement l'amitié et la musique. Telle est la réussite de Walter H. Scott, un portrait des 53 ans d'amitié d'Aaron, 1900-1990, et de Lenny, 1918-1990.
Oui, merci. Et donc, la musique t'accompagne dans l'écriture avant, pendant, après, ou c'est des périodes, des séquences très différenciées?
Jamais la musique ne m'accompagne dans l'écriture, parce que quand je suis dans la musique, je suis totalement dans la musique. Et c'est même terrible, parce que la musique, pour moi, c'est un grand regret. J'aurais préféré largement être compositeur que d'être écrivain. Donc la musique, je suis totalement dedans, donc il m'est impossible d'écrire quoi que ce soit, ou même de faire quoi que ce soit si j'écoute de la musique. Et c'est à tel point que quand je me promène dans la forêt, quand j'entends le vent ou quand j'entends les arbres qui se frottent les uns contre les autres, ça fait toujours un bruit, hein. C'est pas du bruit que j'entends, c'est de la musique. Ça se structure immédiatement dans ma tête comme de la musique. Donc effectivement, il n'est pas question pour moi de mettre une musique de fond quand j'écris. C'est une infirmité, et en même temps je suis obligé de faire avec. J'envie beaucoup les gens qui savent écrire en musique. Malheureusement, j'en suis incapable, je suis obligé de dissocier les deux.
Donc le bruissement des feuillages, c'est une partition
Tout à fait, la nature, de toute façon, en elle-même, les bruits de la nature, mais aussi les bruits de la ville, hein, y a pas de, peuvent se structurer en musique. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est quelque chose d'assez, finalement, d'assez cliché, puisque les compositeurs travaillent avec, notamment les compositeurs du XXe siècle et du XXIe, travaillent avec des bruits. Bon, on n'a pas eu le temps de passer de la musique de Toru Takemitsu, compositeur japonais du XXe siècle, mais lui, par exemple, dans sa musique, on retrouve vraiment la nature, les bruits de la nature. Donc, et on peut retrouver, d'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui, si on prend la musique
dans les symphonies, bien sûr.
Voilà, dans les symphonies, Mahler, par exemple, on entend tout un tas de bruits, les cloches des vaches et tout ça. Et puis, même dans le 18e siècle, les compositeurs mettaient déjà le coucou, hein, ils mettaient bien déjà des tout un tas de. Dans les orgues, par exemple, dans la musique d'orgue, il y a certains jeux qui sont particulièrement évocateurs, descriptifs. Très rigolo d'ailleurs à écouter, hein. Ça vous imite un oiseau, ça vous imite tout ce que vous voulez. Hein. C'est ça la musique, hein. La musique est faite à partir de notre expérience de l'univers sonore.
Hein. Oui, bien sûr. Donc là, je vais continuer avec un poème que j'ai aussi beaucoup apprécié. Comme une ombre heureuse dans le temps des images. Ah, ce que j'étais peut-être avant de prendre corps. Quelques amas de poussière sans conscience, en suspension dans un recoin de l'univers, il fut écrit « Va sur terre en ce corps qui t'échoit et ne le fatigue pas trop. Va sur terre un moment et regarde le spectacle auquel tu es convié, mais ne monte pas sur scène, tu n'es pas là pour agir. Tu n'es là que pour contempler, car tu es assemblé de telle sorte que tu ne puisses rien faire d'autre que te promener et passer comme une ombre heureuse dans le temps des images. »
Alors là, c'est un texte comme une ombre heureuse dans le temps des images. Le titre n'est pas de moi. C'était le titre d'une installation vidéo que j'ai visitée dans un musée d'art contemporain à Lisbonne.
Oui.
Je crois que c'était à Lisbonne ou à Porto, mais il me semble que c'était à Lisbonne. Je mélange un petit peu parce que ces deux villes, pour moi, sont des espèces de paradis, de paradis pour la création, bien entendu. Et donc, c'était une installation vidéo qui m'a inspiré ce texte et qui, je trouve, entre en résonance avec mon expérience du retrait. Qui n'est pas un retrait du monde total, hein. C'est un pas de côté, voilà. Mmh. C'est un pas de côté. Et dans cette vidéo, justement, le thème de la marche était très présent. Donc, j'ai honteusement emprunté le titre. Alors, je ne sais pas quel est l'auteur de la vidéo. J'aurais aimé le retrouver, mais j'ai visité ça comme on visite parfois un musée, hein, en flânant. Mais le titre du poème, hein, comme une ombre heureuse dans le temps des images,
oui.
c'est le titre de la vidéo de cet artiste.
D'accord.
Par contre, le poème, bien entendu, est de moi.
Oui, il faut le préciser.
Il faut le préciser.
Et Christian, donc aussi, je voulais revenir sur le passé de ton activité aussi d'éditeur, je crois, avec Orage Laguna. Est-ce
oui,
que j'ai bonne mémoire ?
Oui, Orage Laguna Express, ça c'était une histoire très compliquée.
Oui.
Ça n'a pas toujours été à moi. À un moment, je m'en suis occupé. Donc, il s'agissait de micro-éditions. Il s'agissait de fabriquer des plaquettes. Mmh. Donc, ça a bien marché pendant quelques temps. Mais à l'époque où j'ai pris le bébé, on a été un petit peu victime de notre succès. Et on n'arrivait plus finalement à assurer aux écrivains qu'on éditait, qu'on publiait, on n'arrivait plus à leur assurer une diffusion correcte.
Ouais.
Donc on a arrêté parce que c'était trop compliqué.
Mmh.
Alors après c'est reparti dans d'autres directions. Mais j'ai quand même publié un livre il n'y a pas longtemps aux éditions Orage Lagune Express. Qui s'appelle Prairie Journal et qui est un carnet qui est constitué par 10 ans de carnet écrit au jour le jour sur Internet, parce que j'attache beaucoup d'importance à l'écriture sur Internet.
Oui.
Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Donc ce recueil, carnet Prairie Journal, est paru effectivement chez cet éditeur, Orage Lagune Express, en 2015 ou 16, je ne sais plus.
Donc, des ouvrages écrits, publiés, tu en as combien à peu près ?
Alors là, c'est une question au piège. J'ai pas du tout le compte en mémoire. Les trois derniers, parce que je compte pas forcément toutes les. J'ai publié beaucoup de livres à tirage très limité, tirage confidentiel. Alors des plaquettes, il doit y en avoir une bonne douzaine. Mais en gros, dans les livres les plus diffusés, les mieux diffusés, hein, toute proportion gardée, parce que effectivement, il y a Prairie Journal qui date d'il y a quelques années. Il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Mariage d'automne. Alors là, on est dans de la littérature sentimentale, hein, que j'assume complètement, que j'ai essayé d'écrire au mieux, bien évidemment, mais il s'agit d'histoires d'amour, hein, de toute façon. Hein, ça me plaît bien d'écrire, ça m'a plu d'écrire des histoires d'amour, donc ça s'appelle Mariage d'automne, hein, voilà. Donc, qui a été publié chez le même éditeur que les poèmes du bois de chauffage, donc Germe de Barbarie.
Donc, qui se trouve où cet éditeur ? On va un peu en
Alors,
parler.
Alors, Germe de Barbarie, c'est un petit éditeur qui a ses activités en Dordogne, dans le Périgord, à Bergerac, dans la région de Bergerac, qui est une région que j'aime beaucoup. D'abord parce que j'y ai 37 ans d'amitié avec l'éditeur. Qui s'appelle Bernard Dezon,
oui. Hein,
et qui publie aussi une très très bonne revue qui vient de sortir un numéro spécial Brassens, hein, on est dans la chanson. Juste avant, c'était un numéro consacré à Jean Cocteau.
Et cette revue, donc, on peut la trouver où ?
Tout à fait. Il faut le plus simple, hein, c'est une revue qui est quand même, comme toutes les revues maintenant, bien diffusée sur Internet. Donc il suffit de taper Brassens, éditions Germe de Barbarie, ou Jean Cocteau, éditions Germe de Barbarie, et on va tomber sur le site des éditions Germe de Barbarie, où sont présentées toutes les productions de la maison, donc mes ouvrages, ceux des autres auteurs évidemment, et puis la revue, les deux numéros de la revue.
Donc vous pourrez dire à cet éditeur que j'ai pu me procurer aux éditions Robert Morel un livre sur le visage, et il s'agissait de photos de Brassens. Donc, ces éditions-là des années 60, et c'est un livre absolument prodigieux.
Oui, et je crois que dans le numéro consacré à Brassens, on trouve mention de cet ouvrage.
De cet ouvrage. Mmh. Donc, l'éditeur connaît aussi. Je vais poursuivre par un poème, encore, qui s'intitule « O ». O-H. Aujourd'hui, je vais commettre un impair dans le monde des poètes. quelque chose de pas joli joli, de pas loyal, une faute de goût, quelque chose de bien pire que de ne pas aimer le rap. Après ça, je suis bien conscient que je n'aurai plus qu'à aller me faire lire ailleurs, mais je dois avouer que ça me démange depuis longtemps. Je vous vois venir. Vous croyez que je vais me contenter d'écrire un sonnet rimé avec Alexandrin et Césure, Alémistiche, puis repartir tout content? Oh non, non, je vais faire bien pire, parce que je me sens tout à mon aise, même si je sais qu'après ce coup-là, je pourrais toujours courir pour me faire publier par un éditeur artisan, alternatif, militant, engagé, citoyen, indigné, nuit deboutiste, subventionné ou pas. Eh bien voilà, il est temps, mesdames et messieurs, temps pour moi d'en venir au fait. D'autant qu'à 58 ans, je peux me le permettre sans conséquences sérieuses sur ma vie sociale et littéraire. Au nez et aux barbes de tous les pâles et retardateurs imitateurs des Beats, qui croient casser trois pattes à un canard parce qu'ils farcissent leurs poèmes de « mec, putain » et de « oh putain, mec ». Alors qu'on s'amusait déjà ainsi, comme des petits fous, au milieu du XXe siècle, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Eh bien oui, mesdames et messieurs, voici le moment où je vais commettre l'irréparable et en finir avec plus de 50 ans de poésie lettriste, de poésie sonore, de poésie action, de poésie expérimentale, de poésie oulipienne, de poésie littéraliste, de nouveaux réalismes poétiques, de poésie électrique. Enfin, bref. Bon. Allez, cette fois qu'on a fini, il le fallait. Allez, hop, je vais employer le mot « âme » dans un poème. Eh bien, voilà, c'est fait.
Oui, là, c'est un petit clin d'œil qui est un petit peu trop méchant, à mon avis, par rapport à toutes les tendances de la poésie du XXe siècle, qui ont toutes, je quand même tiens à le dire, qui ont toutes leur intérêt. Hein, il y a des champs qui ont été explorés. Alors, c'est comme un arbre. On explore un arbre, il fait des branches. Alors, il y a les branches maîtresses, et puis il y a des branches, il y a des ramures qui vont finalement ne pas mener à grand-chose, qui n'auront pas d'autres bourgeons, mais qui ont quand même l'intérêt d'être ici. Hein? Alors donc c'est un texte qui est un peu critique par rapport à tout ce qu'on a connu comme expérience dans la création poétique, mais c'est de l'ironie et c'est pas si c'est un ah, je regrette un peu d'avoir peut-être été un peu trop méchant, mais c'est qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire, moi, je suis très content que ces expériences aient été faites, parce que ces expériences ont toutes apporté quelque chose.
Bien sûr.
Mais là où elles deviennent négatives, c'est quand on se confie là-dedans, quand ces expériences deviennent des nouveaux conformismes, quand on n'en sort pas et quand ça gomme tout le reste, là, ça devient moins intéressant.
Mais vous, cher public, cher auditeur et auditrice, qui êtes aussi amoureux de la littérature du XVIIe ou du XVIIe siècle, on saura que dans « âme », nous pouvons retrouver le mot « amour ».
Oui, tout à fait. Et puis l'âme a été confisquée, c'est bien dommage, par la religion.
Bien oui.
Mais l'âme, de toute façon, c'est un mot qu'on n'ose plus employer maintenant dans la poésie. Si on emploie le mot âme, on peut être viré de certains cénacles poétiques.
Oui, oui.
Moi, je l'ai vécu, ça. Donc, je ne vais pas citer de nom, mais l'âme, franchement, c'est devenu un gros mot. Alors que ça fait partie aussi de notre expérience. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Mais quelque chose dont on ignore la nature et le sens, ça fait partie aussi de notre vie, hein, de notre expérience. Donc j'ai voulu effectivement employer ce mot « âme », qui revient d'ailleurs dans d'autres productions. J'ai une nouvelle que j'ai publiée, alors là, confidentiel, chez un éditeur confidentiel, qu'on ne doit plus trouver maintenant, à part sur Internet, et qui s'appelle « Alma s'en va ». C'est une histoire d'âme. C'est une âme qui s'en va. Donc l'âme, Alma, tout ça, c'est lié. Et donc, puisqu'on a des mots, autant les employer.
Oui, et qui dit âme, moi qui suis quand même intéressé par la vie labyrinthique de nos émotions et tout ce qui se trame sourd dans l'inconscient, le mot âme vient révéler ou dévoiler ce qui nous échappe, ce qui est secret en nous, mais qui peut surgir à tout moment.
Oui, oui, la survenance, et puis essayer de nommer les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, dont on sent bien qu'elles existent. Et pourtant, je suis un esprit très rationnel, hein, je ne suis pas du tout tourné vers la magie et tout ça, mais on sent bien que cette âme, c'est quelque chose, ça existe, ça pèse. Quelquefois, ça pèse très très lourd, d'autres fois, c'est très léger. Alors, on ne sait pas comment le définir. On a un mot, âme, donc pourquoi ne pas l'employer dans la poésie? Pourquoi ne pas l'employer même dans la vie quotidienne? Pour moi, c'est du réel très très solide et costaud.
Oui, donc une petite pause pour reposer nos cœurs et nos âmes et nos petits corps. Donc,
alors là, ça tombe parfaitement bien, puisqu'il s'agit d'une composition de Nino Rota, qui a écrit des musiques de films, de films de Federico Fellini. Mmh. Nino Rota, d'ailleurs, qui a été un compositeur, pas uniquement qui a été rendu célèbre par les musiques de films, mais qui est un très grand compositeur classique, qui a écrit des concertos pour piano, des œuvres classiques. Et là, il a écrit donc la musique de ce film, Juliette des Esprits. Hein. Puisqu'on parlait d'âme, eh ben, on est avec Juliette des Esprits,
oui.
Par Nino Rota.
Donc, je cherche le nom de cette actrice qui était. Ce film, mais je vais le retrouver. Qui était, je crois, la compagne de Fellini.
C'est bien possible.
Nous écoutons. Donc, Nino Rota.
Thank you.
Voilà, Juliette des Esprits par Nino Rota. Oui. Hein, c'était la musique du film de Federico Fellini. L'univers de Federico Fellini, pour moi, c'est quelque chose de magnifique et de géant. Et je pense qu'on peut trouver certaines atmosphères, enfin en toute modestie, hein, je le dis, il y a certains films, certaines images de Federico Fellini qui ont que je réinjecte parfois dans ma poésie. Donc c'est une influence plus que bénéfique.
Oui, donc Juliette des Esprits avec Giulietta Masina.
Ah oui, hein? Donc la compagne, enfin oui, l'épouse de Federico Fellini.
Oui,
il faut savoir que Fellini était tout son génie extravagant n'empêchait pas qu'il vivait d'une manière très très bourgeoise,
oui.
Petite bourgeoise en oui. plus. Chez lui, il y avait un canapé en sky, alors que à l'époque c'était une faute de goût terrible dans les années 70. Tout était bien propre, c'est tout juste qu'il n'y avait pas des patins chez eux. Hein.
Mmh.
Donc c'est pareil, c'est l'étrangeté, hein, donc thème du livre, l'étrangeté, c'est ça aussi, c'est le décalage qu'il y a entre ce qu'on est, ce qu'on paraît, ce qu'on voudrait être, ce qu'on voudrait paraître.
Oui, donc l'étrangeté, là je vais lire « Incident » qui me rappelle un haïku, donc « Incident ». L'escargot s'est énervé, mais personne ne l'a su. Donc, pour conclure, Christian, que pourrions-nous ajouter pour ceux qui nous écoutent ?
La question récurrente, c'est souvent, quand dans la poésie surtout, hein, même quand c'est de la poésie qui n'en est pas, parce que là, il s'agit plutôt de récits.
Oui.
Hein, je pense que l'auditeur et l'auditrice l'a compris. La question récurrente, c'est où trouver maintenant des livres de littérature publiés par de petits éditeurs ? Germe de Barbarie, c'est un petit éditeur.
Oui.
Donc, le plus simple, en ce qui me concerne, il y a peu de diffusion en librairie. Bon, les libraires qui veulent le prendre sont bien entendu
oui.
Encouragés à le faire s'ils en ont le souhait, c'est pas toujours. Hein. Mais le plus simple, si on veut me trouver, on tape mon nom hein, sur Internet, Christian Côté-Aymard, ou alors on tape le nom de l'éditeur, Germe de Barbarie, et vous allez forcément tomber sur quelque chose, parce que je laisse beaucoup de traces sur Internet.
D'accord.
J'écris beaucoup sur Internet. Donc, il n'y a aucune difficulté pour me trouver, pour trouver mes livres, pour trouver les liens vers lesquels aller pour se les procurer. Il n'y a absolument aucun souci. Je vais aussi dire un gros mot, hein, c'est un très gros mot, un de plus après âme. Je dirais aussi que les gens qui n'ont rien contre Amazon, je comprends très bien que certains aient beaucoup de choses contre Amazon, mais peuvent taper Côté-Aymard Christian Amazon et ils trouveront à peu près tout ce que je fais et la manière de se le procurer, que ce soit en librairie d'ailleurs, parce que quand on rebondit sur un lien Amazon, on peut arriver chez un libraire.
Oui.
Également. Hein. Je sais que je ne vais pas me faire aimer en disant ça, mais c'est la réalité.
Donc, Christian Côté-Aymard, poème du bois de chauffage et autres récits de l'homme invisible aux éditions Germe de Barbarie. Merci beaucoup.